Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la maison de Radio France pour un masque et la plume. Consacré ce soir à l'actualité littéraire studio, je suis ravi d'accueillir notamment une classe de seconde du lycée Louis Armand de Villefranche-sur-Saône. Attention, groupe littérature et société, ça vous pose quand même une classe. Ça. Donc, avec ce soir les crabes, les langoustes de la critique, j'ai nommé Nelly Capriélian des Inrecuptibles, Olivia de Lamberterie, Duel, Arnaud, Vivian, le Multicarte, Transfuge, Regard, La Revue Charles, et avec Jean-Claude Raspien-Jas de La Croix, pour parler notamment du journal d'Irlande de pêche et d'amour de Benoît de Groult, mais également des livres d'Edouard Louis, Joël Dicker, David Fuenquinos, ainsi que deux nouveaux livres de d'Armistead Maupin. Dans le courrier de la semaine, à propos du lambeau de Philippe Lançon, Frédéric Becbédé avait dit à cette tribune qu'il y avait peu de livres écrits par des victimes des attentats. Évidemment, beaucoup d'auditeurs en citent d'autres. Ainsi, Madame Vissot, cher masque, qui vient de me donner envie de lire Lançon, et a cité Zerouya Chalef. Sache qu'il n'y a pas que ces deux livres-là. N'oublie pas le livre d'Erwan Larère, le livre que je ne voulais pas écrire, qui relate le massacre du Bataclan. Laetitia de Valbel cite le même livre d'Erwan Larère, un écrivain qui se trouvait au Bataclan le 13 novembre 2015. Et qui a écrit à la suite de l'attentat un excellent ouvrage, ou encore Alice Varlet, qui trouve le témoignage d'Erwan Larère saisissant, touchant, sans esprit de revanche et terriblement vivant. Dojo invoque le magnifique livre d'Antoine Léris, « Vous n'aurez pas ma haine ». Sophie préconise la légèreté de Catherine Meurice, qui m'a bouleversé. C'est une bande dessinée préfacée précisément par Philippe Lançon qui retrace les jours et les mois qui suivent l'attentat. Un travail de deuil magnifique. Claudine Galland évoque pour sa part « J'ai vu la mort en face » aux éditions du Rocher de Walter Benjamin, rescapé de l'attentat du 22 mars 2016 à l'aéroport de Zaventem. Pudeur, dignité, simplicité, pas de haine. Et encore d'autres conseils, ce qui prouve effectivement qu'il y a beaucoup de témoignages. Toujours à propos du livre de Lançon, Arnaud, un auditeur qui signe un ancien du métier nous écrit la diatribe enflammée d'Arnaud sur la déchéance de l'hôpital, qui ne peut fournir comme pansement étanche à Philippe Lançon que des sacs poubelles, m'autorise à signaler que cette technique n'est pas dictée par un manque de moyens ni par souci d'économie, mais simplement qu'il n'existe pas de système étanche bien adapté à la taille de la zone à protéger. Les sacs poubelles sont plus efficaces que les autres systèmes, ce qui évite aux infirmières en sous-effectif de refaire un pansement à chaque douche. Si Anis Coutet remercie Frédéric Becbédé d'avoir recommandé Cause de ce cher Guillaume Meurice, elle lui reproche évidemment d'avoir révélé le secret de l'intrigue. Merci, ajoute enfin Anthony Debran, d'avoir dévoilé l'énigme du poème Voyelle. J'allais de ce pas acheter et lire le livre de Meurice, mais je n'ai plus envie à cause de M. Becbédé qui n'a pas pu s'empêcher de raconter la fin. Et
oh,
c'est évidemment la suite du feuilleton. Je t'en prie, il n'est pas là. La suite du feuilleton.
Tu lui dirais en face.
Du feuilleton où il s'agit de savoir s'il faut ou pas divulgâcher les films, les pièces et les livres. On commence avec le très attendu troisième livre d'Edouard Louis, l'auteur d'En finir avec Eddie Bellegueule. Celui-ci s'intitule « Qui a tué mon père ?» Sans point d'interrogation, il paraît au seuil. Il est très court, 90 pages, court, dense, comme un monologue théâtral en forme de réquisitoire contre tous ceux qui, selon lui, ont rendu son père gravement malade. « Presque mort, dit-il, ce père ouvrier, alcoolique, violent, qui autrefois le frappait et le traitait de PD, relire le premier livre d'Édouard Louis, eh bien, Édouard Louis le défend aujourd'hui contre, en général, les dominants. Alors là, ça va pour la fin du livre, de Chirac à Macron, c'est assez large, hein, en passant par Sarkozy et Hollande, dont les systèmes ont humilié, brisé, broyé, réduit à la misère son père, des noms de présidents qu'il veut, dit-il, faire entrer dans l'histoire, je cite, par vengeance. Et c'est un texte dédié à Xavier Dolan, commandé, ça on le sait qu'à la fin, par Stanislas Nordet, inspiré évidemment par Bourdieu, et où le fils dit enfin à son père qu'il l'aime, tout en se demandant s'il est normal d'avoir honte d'aimer. Qui a tué mon père? Donc Édouard Louis, Arnaud?
Bien, je me souviens que pour lorsque nous évoquions en ce même micro son précédent livre qui s'appelait Histoire de la violence.
Histoire de la violence.
J'avais commencé mon intervention en disant le retour de Social Threats, qui avait beaucoup offusqué Nelly, qui était là aussi,
oui.
En disant c'est dégueulasse de le traiter de Social Threats, mais c'est exactement ce que je pensais. Et d'ailleurs, ce nouveau livre, finalement, montre que j'avais raison. Puisque il défend désormais son père, alors que ce qui était offusquant dans, pour en finir avec Eddie Bellegueule, c'était justement la manière dont il incriminait ses parents d'être homophobes, fascistes, hein, en tout cas d'extrême droite, racistes, sans jamais essayer de les comprendre. Et là, c'est exactement le mouvement inverse, c'est une tentative de compréhension et qu'il fait par la politique ou même le politique. Et effectivement, en incriminant des personnalités, François Hollande...
Tous les présidents successifs
oui,
de Chirac.
Martin Hirsch, par exemple... pour avoir supprimé le RSA. Il dit ça, hein, Macron enlève le pain de la bouche de mon père lorsqu'il supprime l'APL. 5 euros, vous vous souvenez, il dit là, voilà, c'est des gestes. Et la politique, finalement, c'est de l'esthétique pour les dominants et c'est de la pratique pour les pauvres. C'est, ça les tue, effectivement. Donc c'est un texte vraiment très politique, ce qu'il n'avait, encore une fois, jamais fait. C'est un vrai changement de position.
Il raconte aussi dans ce livre... à propos de son père s'est mis à lire les livres de son fils,
oui.
Et que ça a joué aussi dans leur retrouvaille, si j'ose dire.
Après cela, je continue à penser que ce n'est pas un écrivain très intéressant à mes yeux. Voilà. Je le pense depuis son premier livre. Je n'ai jamais compris l'espèce de dithyrambe qu'il y avait autour d'Édouard Louis. Et là encore, je retrouve une espèce de maniérisme un petit peu hérité, beaucoup hérité, dans l'éthique. De Marguerite Duras, il y a quand même cette une manière de poser les choses dans une sorte de violence qui se veut pas littéraire, justement, qui veut éviter ce qu'il appelle à un moment dans le texte les exigences de la littérature. C'est pas exactement ce que sont ces exigences. Et puis, alors, sur le problème de la vengeance, c'est très étonnant parce que, effectivement, il y a deux moments. Il y a un moment où il est dans un bus et il écrit un texte en disant ça ne sert à rien de se venger. Et puis, à la fin, et quand même, c'est un texte très court, on peut pas dire voilà, c'est
encore
c'est...
une fois à destination théâtrale. Hein.
Oui, sans doute. Et à la fin, il se venge. Donc il y a quand même toujours cette position chez lui que je trouve très paradoxale et
ambiguë. Tout le
monde
s'exprime sur ce livre, Nelly.
Moi, je le trouve très 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 fort, et par sa seule existence, je pense que ça en fait un écrivain qui est important et qui compte aujourd'hui, parce que je pense qu'on n'a pas ça en littérature. C'est-à-dire, on n'a pas une littérature qui donne les noms. Comme ça des politiques. Je me rappelle quand j'avais interviewé Régis Geoffrey pour son livre sur DSK, et il me disait qu'il savait pas s'il devait mettre DSK ou pas, dire le nom dans le livre. Là, je trouve que il y va, il en fait un objet littéraire et que ce type de littérature, il y a une littérature engagée française qui existe, il y a une tradition qui existe, mais là comme il me disait en interview une littérature de confrontation, c'est-à-dire qu'à un moment donné enfin prendre le lecteur et lui mettre le nez sur ce que que la politique et comment la politique en effet, comme le disait Arnaud, touche les plus faibles et les plus démunis, et quand même une vaste majorité des Français, alors que nous, dans une classe sociale moyenne, finalement, ça peut être un peu théorique, enfin, on peut ne pas se rendre compte que certaines lois de Sarkozy vont faire qu'un homme qui a déjà le dos broyé, un ouvrier qui a eu le dos broyé à cause d'une machine qui lui est tombée dessus, soit obligé d'aller à 40 km de chez lui être balayeur.
Il est balayeur, maintenant.
Voilà, et que ça va encore plus, évidemment, endommager son corps et le mener à une mort, enfin il n'est pas mort d'ailleurs, faut le préciser, le père d'Édouard Louis, mais à une mort certaine, je trouve que c'est absolument primordial primordial de l'écrire. Ça n'existe pas dans la littérature française contemporaine à ce point.
Il y a des auteurs comme Annie Ernaux ou d'autres qui ont eu un rôle, une fonction sociale.
Mais de façon engagée, c'est-à-dire elle montrait. Elle disait voilà comment c'est. Lui, il dénonce. Enfin, c'est une forme de j'accuse. Et je trouve que c'est un j'accuse de la part d'un jeune homme de 25 ans qui y va quand même. Et par ailleurs, je trouve que tous ses souvenirs, là, faut le dire aussi. Alors, je pense, en effet, c'est un texte pour être dit sur une scène, mais c'est aussi un texte pour être lu. Enfin, c'est un texte de littérature comme un autre. Mais je trouve que la façon dont il écrit, c'est-à-dire à travers tous ses souvenirs avec son père, qui sont absolument magnifiques et extrêmement touchants, et on voit se dessiner, en effet, une personnalité double du père, qui à la fois essaye d'être le dur, d'en finir avec Eddie Balgueul, son premier livre, et en même temps, qui est un homme sensible, qui doit renoncer à sa sensibilité, et c'est aussi ce qui va le pénaliser, ce qui va lui faire arrêter ses études, c'est cette espèce de vouloir être un garçon, un vrai, un dur, et pas ce qui risquerait d'être appelé un PD, entre guillemets. Et je trouve que nous montrer ça et dire ça, je trouve ça très très fort.
Olivia ?
Moi, je trouve que ce n'est pas tout à fait un livre. Ce sont des textes pour le théâtre. Il y a deux textes très différents dans ce livre. Il me semble qu'il y a un chaînon manquant, parce que ce n'est pas un livre qu'on peut lire comme ça tout seul. C'est un livre qui s'inscrit dans la suite des deux précédents. Et je trouve qu'on a du mal à comprendre comment cet homme, qui a été si à charge contre son père, tout d'un coup adopte une attitude très contraire. Et je trouve qu'il manque l'explication à ça. Il y a un nœud qu'on ne comprend pas, puisque dans le premier livre, il expliquait comment il avait été perpétuellement blessé par son père, et là, par un retournement spectaculaire et complètement mystérieux, il explique comment c'est lui qui finalement blessait son père. Donc il y a des scènes très belles. Il y a notamment une scène, effectivement, où il fait une petite chorégraphie sur une chanson d'un groupe disparu à quoi, et lui joue la chanteuse. Et c'est très bien raconté. Il raconte le gamin qui cherche le regard de son père. Et le regard de son père, évidemment, fuit. Et le père finit par sortir pour fumer une cigarette. Et Édouard Louis raconte qu'il a fini par sortir lui aussi et que son père lui a dit « ne t'en fais pas ». Et Édouard Louis dit « j'avais blessé mon père ». Donc c'est vraiment une sorte d'inversion des choses qui, je trouve, manque d'explication. C'est trop court. C'est pas très bien écrit, excusez-moi, mais moi je trouve qu'il y a un vrai problème d'écriture, que ça ne me semble pas du tout de la littérature, et que la deuxième partie, pour nommer les coupables, mais c'est ce qu'on lit dans les journaux toute la journée, ils découvrent tout d'un coup que la politique a une incidence dans la vie des gens.
Mais Dieu. Mais pas aussi directement, je suis désolée, mais on tout ça aussi directement dans les journaux, mais pas
d'abord,
du tout.
C'est ce qu'a fait Arnie Ernaux, toute son œuvre.
Mais non, mais comme pas, tu le disais,
il y a quelque chose qui
non,
mais il y a toujours eu quelque chose qui n'allait pas avec Édouard Louis.
C'est quand même très
bien. Il a milité contre
ensemble,
s'il vous plaît, pas ensemble.
Quand même, mais on va pas ressortir Arnie Ernaux sans arrêt.
Mais Nelly, toi-même, tu peux pas découvrir que la politique a des conséquences matérielles sur la vie des gens. Je suis pas, mon Dieu, une foudre politique, j'ai un instinct politique.
Je découvre pas, mais je trouve que la façon dont il lit les causes et les
mais
effets.
Le problème, Nelly, c'est que lui non plus ne le découvre pas.
C'est très important
que ce soit
écrit dans un livre.
De le découvrir. Il n'y a aucune. Mais il n'y a jamais eu de sincérité chez ce jeune garçon. Il n'y en avait pas de sincérité dans son premier livre. La preuve avec ce troisième, où il dit le contraire.
Pour lui faire le procès du manque de sincérité. Mais qui es-tu ? Ça va
pas. Mais si, évidemment.
S'il vous plaît.
Il joue sur cette corde-là.
C'est pas possible.
Pour finir, c'est un livre beaucoup sur la masculinité. Et je trouve qu'il y a aussi des raccourcis qui m'ont un peu gênée sur le fait que son père était dans le rejet tout le temps d'une certaine féminité et que pauvreté égale rejet de l'homosexualité, c'est écrit en gros comme une équation. Je trouve ça un peu curieux.
Jean-Claude ? L'explication que vous cherchez, enfin que Arnaud cherche, toi aussi d'ailleurs, elle me semble relativement simple. C'est vraiment le retour du refoulé, c'est-à-dire avec la vraie violence que ça suppose. C'est-à-dire que il y a plusieurs livres en un. Je veux dire, je suis assez d'accord avec toi sur le côté. Moi, je suis d'accord. Je trouve pas que ce soit très très bien écrit, mais peu importe. On n'en est pas là. C'est à la fois un livre coup de poing, c'est un cri de rage, c'est un sanglot qui est mal contenu, c'est un livre évidemment d'amour filial. Retour du refoulé, d'un seul coup, il comprend ce qui s'est passé. Et après, il y a en effet ce fameux j'accuse. Bon. Sur l'histoire de la masculinité, c'est assez intéressant. C'est-à-dire, en gros, il dit c'est une classe maudite, c'est une classe oubliée. C'est des gens acculés à la solitude, au désespoir social. Et elle s'enferme dans une forme de masculinité brutale, fermée sur elle-même, dont a souffert, évidemment, Édouard Louis. Je crois que c'est ça que ça décrit. Après, il y a ce coup de cœur, cette déclaration d'amour qui, d'un seul coup, surgit dans le livre et qui me semble être le sommet de ce retour du refoulé. l'idée, et après il reprend ses esprits, et il reprend le cours des choses pour arriver à ce j'accuse. Alors, sur le j'accuse, moi je suis d'accord avec vous deux, c'est-à-dire Olivia et Arnaud. Un, c'est pas nouveau, et deux, il y a quelque chose chez Édouard Louis, et je te rejoindrai un peu là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas l'insincérité, mais il y a une part de posture chez Édouard Louis dont il n'arrive pas à se débarrasser, et qui là est encore présente une fois de plus. Alors quand il fait l'énumération des politiques, je lui accorde une chose, il y a une chose très belle dans le livre, c'est d'expliquer à quel point l'histoire politique d'un pays peut se comprendre à la façon dont les corps sont abîmés. Je trouve ça très beau, ça. Vraiment. Ça, alors là, c'est une très belle idée. C'est une très belle idée. Mais après, quand il fait l'énumération des politiques qui sont responsables de ça, très bien. Sauf qu'à un moment, il dit « je l'écris pour qu'en Inde, au Brésil, on le sache ». Enfin, d'un seul coup, avec ce texte qui ne fait que 80 pages, il a l'impression que le monde entier va le lire. Et moi, je pense qu'il est un peu victime de son entourage qui lui fait croire en effet qu'il est un grand écrivain. Et ça culmine avec la page de remerciement où on s'aperçoit que le monde entier s'est ligué pour qu'Édouard Louis puisse écrire l'état du pays. Et je trouve que ça ressemble un peu à de la posture à un moment. Et je te rejoins, non pas sur l'insincérité, mais sur la posture. Et il faut qu'il se dégage de ça. Quoi.
Qui a tué mon père ? C'est Édouard Louis. Et c'est aux éditions du Seuil. Vers la beauté, le nouveau roman chez Gallimard de David Fuenquinos, l'auteur de La délicatesse et de Charlotte, soit un prof d'histoire, histoire de l'art, spécialiste de Modigliani, et il s'appelle Antoine Duris, Duris comme évidemment Romain Duris. Il quitte sa bonne ville de Lyon, son bel appartement, son école des beaux-arts et son divorce, et il débarque à Paris pour y devenir, le croirez-vous, gardien au musée d'Orsay. La DRH, Mathilde, qui l'engage, ne comprend pas vraiment ce qui pousse un homme surqualifié à briguer un tel poste et se demande quel secret il peut bien cacher. Duris, lui, ne pense qu'à une chose, dialoguer chaque jour avec la Jeanne et Buterne qu'a peinte Modigliani et croire, là je le cite, à la puissance cicatrisante de la beauté, au prétexte que, je le cite toujours, les tristesses s'oublient avec Botticelli, les peurs s'atténuent avec Rembrandt et les chagrins se réduisent avec Chagall. Olivia ?
C'est un livre assez maladroit, je dirais, qui est une sorte de condensé de tous les autres livres de David Fuenquinos, puisqu'on y retrouve toutes ses obsessions qui sont l'échec, mais l'échec qui serait l'avant-goût d'une réussite future. La dépression, la rupture, la création, il y a vraiment des vestiges de son livre sur Charlotte. Et puis, malheureusement, je trouve que ça ne marche pas très bien. Je trouve que ce qui était des jolies formules dans des livres que j'ai beaucoup aimés précédemment devient assez grandiloquent et que c'est un livre très plombé. Voilà, c'est un livre plombé. Moi, je me suis dit, il doit pas aller très bien, parce que les livres de Fuenquinos sont parfois inégaux, maladroits, mais ils sont toujours rattrapés par une sorte de petite grâce qui, là, je trouve, n'est pas présente dans ce livre-là.
C'est-à-dire, c'est un titre dur à porter, hein, Vers la beauté.
Oui, l'idée assez naïve. C'est un livre naïf, voilà. C'est un livre naïf. L'idée que la beauté est une sorte de pansement sur la laideur. J'adorerais y croire, mais malheureusement, je trouve que ça marche pas. Alors que je trouve que les premières pages sont assez inspirées. J'aime bien l'idée que tout d'un coup, on renonce à tout pour devenir gardien de musée. Moi, ça me plaît assez. Mais voilà, c'est une sorte d'entre-deux livres, je pense, d'un auteur un peu qui a besoin de se renouveler et qui, je suis sûre, va commencer quelque chose de nouveau la prochaine fois.
Jean-Claude, tu penses que la beauté peut cacher la laideur ?
Ah, ça c'est sûr, ouais. Ça c'est sûr. Ouais.
Et qu'elle est cicatrisante ?
Mais absolument. Mais ce qui donne pas mon avis sur le livre. Je réponds à tes questions, c'est mon avis sur le livre. Non, mais pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, c'est ça l'échec du livre. C'est que tu te dis, je ne sais pas si la beauté console. Mais bien sûr que oui. Et précisément quand on sort de ce livre, ça fait l'effet inverse, quoi. C'est-à-dire, moi, si vous voulez, l'effet de Fuenquinos. Alors, je vais être un peu méchant, mais tant pis. Ça me fait penser à l'allergie au gluten. C'est-à-dire qu'on le sait pas tout de suite. Et c'est à force d'ingurgiter des aliments au gluten qu'on s'aperçoit qu'on devient, qu'on peut pas, quoi. Et moi, si tu veux, Fuenquinos, j'y vais avec vraiment intérêt. Je me dis pourquoi, voilà. Si, avec intérêt, je t'assure. Et l'idée initiale me paraissait intéressante. Et puis, d'un seul coup, j'ai une crise d'allergie. J'ai des boutons, j'y arrive plus, quoi. J'y arrive vraiment pas.
T'es allé jusqu'au bout du livre ou
ah,
pas?
Ah, mais oui, parce que, évidemment, moi, c'est ma conscience professionnelle. C'est-à-dire, je vais jusqu'au sacrifice de mon corps. C'est-à-dire, je vais jusqu'au bout, quoi, tu vois. Et,
c'est un peu ton sacerdoce, finalement.
Mais d'une certaine façon, oui. Ici aussi. Voilà. Et si tu veux, c'est un livre totalement explicatif, appliqué, assez balourd. Ce qui est intéressant avec Fuenquinos, et là, en effet, il y a quelque chose qui est une veine, c'est le romancier des lieux communs, et des aphorismes. Des lieux communs, des alors je vais donner.
Il y en a quelques-uns dans le Dicaire aussi, des aphorismes.
Oui, si mais on y viendra. Oui, mais oui, c'est le romancier des lieux communs et de la banalité. Alors il y a une veine, hein, je veux dire, il peut y aller. Alors il y a des phrases absolument extraordinaires. Moi je dois dire, l'absurde est toujours voisin du désir. Ouais, c'est possible. Il ne faut jamais chercher à comprendre pourquoi quelqu'un nous désire. Si peut-être quand même. Si, ouais. Ouais, enfin je sais pas, ouais. Oui, il me semble, ouais. Il y a un truc qui m'horripile. Alors là, c'est le sommet de la crise de gluten, c'est les notes en bas de page. Mais elles sont ridicules. Mais il y a personne chez Gallimard pour le lui dire gentiment, pour lui dire mais
c'est
arrête,
une tendance du moment, c'est ridicule. Ça. Hein.
Oui, mais chez il en a toujours fait, il y en avait beaucoup dans la délicatesse et elles étaient très drôles et là, ça marche pas.
Il y a un moment, il y a une phrase parmi d'autres parce que ça c'est comme après un naufrage, il y a plein de bagages qui traînent, de corps, de trucs, il y a ça. Et donc, à un moment, au milieu de tout ça, il y a son visage ressemblait à un roman dont on n'a pas envie de tourner les pages. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais sérieusement, ça veut dire quoi? De la même façon, il abuse du mot émotionnel. Voilà. C'est pas émotion, lui c'est émotionnel, donc on a convalescence émotionnelle, indice émotionnel, en connivence émotionnelle, confusion émotionnelle. Moi j'ai un problème émotionnel hein, avec le livre, ça je tiens à vous le dire. Non, si vous voulez, moi je le range dans la littérature essuie-glace, c'est-à-dire aussitôt lu, aussitôt oublié. Quoi. Voilà.
Essuie-glace.
Oui. Essuie-glace, vous connaissez pas ça, Arnaud ?
C'est un livre intéressant au sens où il permet de comprendre ce qu'est un mauvais livre. D'un point de vue mécanique, là nous avons des jeunes lycéens s'intéresse à la littérature.
De Villefranche, je rappelle.
De Villefranche. Plongez-vous dans ce livre parce que vous allez comprendre finalement ce que c'est qu'un mauvais livre. Il y a une idée de départ, effectivement une espèce de Bartleby qui renonce. Et il est professeur d'art et il devient gardien dans un musée. Pourquoi pas? Mais là où on a affaire à un mauvais romancier, c'est que il va nous expliquer pourquoi. Alors que ce qui est beau, finalement, l'art même du roman, c'est que cette décision, finalement, de tout lâcher, devrait être restée inexplicable. Et qu'on soit là dans une espèce de mystère qui est sans doute le vrai mystère de la vie et de la beauté, pour le coup. C'est que les choses n'arrivent pas tout le temps à s'expliquer. Et là, il faut être un grand romancier. Melville, voilà, quand il écrit Bartleby, eh bien, voilà, l'histoire d'un homme qui renonce, qui voudrait ne pas. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication à ce que fait Bartleby. Daniel Pennac vient d'écrire un livre au sujet de Bartleby. Eh bien voilà, c'est inexplicable. Et Melville ne cherche pas à nous expliquer pourquoi Bartleby fait ça. Et là, voilà. Et quand on tombe évidemment sur l'explication, là, les bras vous en tombent.
Ah, on ne va pas la donner parce
ne la donnons pas. Et alors, comment ça marche? Alors, on voit bien. Alors, la mécanique, les notes de bas de page, par exemple, c'est intéressant parce que effectivement, c'est sa définition, c'est sa petite tradition à lui, son petit gimmick à lui, comme on dirait. Donc, ils l'ont fait là. Mais elles sont pitoyables. Mais vous les lisez, vous avez un peu honte pour lui, quoi. C'est désagréable d'avoir honte pour cet écrivain. Et il y a un running gag autour de Romain Duris. C'est purement mécanique. C'est-à-dire,
il est possible que ça soit aussi un projet de film comme La Délicatesse.
Oui, c'est possible.
Est devenu un film, hein.
Filmé
par eux.
C'est surtout un petit truc mécanique pour serrer des boulons de parties qui ne tiennent pas ensemble, en fait, quoi. Ça fait juste un petit lien comme ça. C'est des élastiques pour dire, vous voyez, ça tient à peu près, mon affaire.
Non, mais tu vois ce que tu dis. C'est vraiment une littérature du car et du parce que.
Vous en avez dit assez, non? Vous voulez encore en rajouter, non?
Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, sauf que moi, c'était pas une allergie au gluten, c'est-à-dire lente. Moi, ça me fait ça pour tous les romans de Fuenquinos. Alors là, je pense que c'est le pompon, c'est l'allergie à un triple plateau de fruits de mer. C'est-à-dire que tout de suite, je suis malade. Quoi. Immédiatement, je suis défigurée et je vomis. Non, c'est pour
mais
moi.
Mais quelle idée de manger un triple plateau de fruits de mer.
Quelle idée de lire un Fuenquinos. À part pour les raisons dont parlait Arnaud, c'est-à-dire que justement, quand on est jeune, on veut écrire, on veut être critique littéraire, c'est très intéressant parce que c'est vraiment une collection de tout ce qu'il ne faut pas faire. Et comme le disait un auditeur dans une de ses lettres, un roman en plastoc. Enfin, pour moi, c'est ni un roman, c'est même pas un livre. Enfin, c'est un produit. Voilà, c'est un produit qui est fabriqué avec des. Il y a de l'émotion, il y a des thèmes à la mode d'aujourd'hui. Il y a comme ça un peu de poésie. Il y a des phrases, il y a des formules. Mais enfin, c'est pas un écrivain, c'est pas.
Et en même temps, tout ça sonne vieux. C'est bizarre. Mais tout ça, c'est ennuyeux,
parce que c'est extrêmement convenu.
Non,
c'est vrai.
Non, mais c'est atroce, quoi. Non, c'est atroce.
On a dit l'essentiel, non ?
Vous avez déchiqueté Grégoire Delacour, c'est pas très intéressant.
Vers la beauté, c'est chez Gallimard, de David Fuenkinos. Quel rapport avec Delacour ?
Pourquoi Delacour ?
Parce que moi, je vous ai écouté, je vous ai trouvé, mais des hyènes affamées sur une antilope.
Non, je n'étais pas là.
Tu ne t'écoutes jamais.
J'ai pas dit de mal de Delacour.
Très différent, le journal d'Irlande, Carnet de pêche et d'amour, 1977-2003. C'est le journal posthume de Benoît de Groult, préfacé par sa fille Blandine de Caunes. C'est chez Grasset, la journaliste et romancière féministe, disparue en 2016, dont on lit toujours d'ailleurs « Ainsi soit-elle » ou « Cette malassurance ». Était partie un jour de 77 pour l'Irlande et, avec son troisième mari, Paul Guimard, l'écrivain des choses de la vie et le conseiller à l'époque du président Mitterrand. Elle y avait acheté une maison où elle a passé 25 étés pour sacrifier à sa passion, la même que Nelly, la pêche au homard, à la langouste, au carrelet, à la crevette, au crabe.
Il y avait beaucoup de crevettes. Là,
au crabe. Là, c'est pas un triple, hein, c'est un
quintuple. Ah là, et ça dure des années, des décennies.
De mer, hein. Mais dans ce journal rédigé entre ses 57 et ses 83 ans, Benoît de Groult raconte surtout et sans chichi son autre passion, aussi physique et gourmande que la première, pour son amant américain, Kurt, de 10 ans son aîné. Je vous passe les extraits, qui sont assez chauds, il faut dire. Et dans ce livre, qui est aussi une manière de lutter contre ce qu'elle appelle l'atroce vieillesse, on voit passer, pour le bonheur de la revue Charles, tout le Gotha rose de l'époque. C'est assez impressionnant. Évidemment, François Mitterrand, qui arrive en hélicoptère en Irlande. Mais aussi, pour ceux qui s'en souviennent, Jean Glavany, les Badinter, Régis Debray. Et tout ça vient bouffer les fruits de mer qu'aime tant Nelly. Moi, elle m'a fait penser un peu à une sorte de George Sand ou de Colette, mais version irlandaise. Jean-Claude, je sais que tu l'as lu sans... avec des pincettes, comme dirait le crabe.
Ouais, comme dirait le crabe. Bon, d'abord, précision, ce livre, c'est un précis de décomposition.
Comment ça ?
C'est-à-dire que c'est un livre sur la vieillesse.
Non, vers la fin, mais au
début. Non, très vite.
Oui, bah,
écoute, alors c'est très très vite. Ah non, très vite, c'est sur la vieillesse, mais pas la sienne. Elle arrive à s'en préserver. Mais ce qu'elle observe, c'est la vieillesse des autres, et elle la décrit en permanence. Pendant 25 ans, elle décrit la décrépitude de Paul Guimard, mais avec, je veux dire, une opiniâtreté permanente. Mais sans arrêt, elle revient sur « il est alcoolique, au lit, c'est pas une affaire ». Elle détruit le mythe du Paul Guimard, loup de mer. Elle dit juste que c'est un bonnet...
Loup de mer, tu parles du personnage.
Du personnage, oui. On pensait que c'était un navigateur. Paul Guimard s'était constitué un personnage de navigateur. Elle dit pas du tout, c'est un bonnet de nuit timoré, alcoolique. Et en plus, il a peur d'aller sur l'eau et il fait jamais la vaisselle. Donc de toute façon, voilà. Bon. Ce que je vois aussi dans ce livre, moi, c'est une... Alors d'abord, quand je
c'est
disais...
C'est marrant que tu vois ça que sous cet angle-là.
Non, mais par exemple, sur la vieillesse, tout le livre, c'est les ravages irréversibles du temps, les dégâts irrattrapables de l'âge, c'est le dégoût qu'elle éprouve d'assister à ça, en essayant de se préserver. Elle décrit la vieillesse comme une maladie.
Mais elle parle de son propre plaisir aussi.
J'y viens sur le plaisir.
Elle dit, je ne suis pas une femme de devoir, mais de plaisir.
Oui, mais j'y viens sur le plaisir, parce que le plaisir, j'y viens. Elle décrit la vieillesse comme une maladie dont on ne guérit évidemment pas et on en meurt toujours. Et puis surtout, c'est une peau de vache, quoi. Elle dit du mal de tout le monde. Il n'y a personne qui échappe, ni ses enfants, ni son mari, ni son amant, ni ses beaux-mères.
Elle n'arrête pas.
Elle dit beaucoup de bien de son amant.
Mais non.
24 juin 81, je viens de faire trois fois la bourre depuis ce matin.
C'est pas vrai.
À son âge, c'est quand même pas mal.
C'est pas vrai. Elle dit pas du bien de. Non. Elle est très sélective.
16 mai 92, on arrive vers la fin. Je cherche la bosse, le contact du sexe masculin qui rompt la ligne du corps.
Elle dit. Attends, parce que tu.
En plus, elle dit beaucoup de bien de tous les poissons.
Vous avez l'air de me reprocher de n'avoir lu qu'une chose.
Oui, c'est vrai. C'est très
vous
bien.
Lu,
les bouquins
comment
sont l'as-tu formidables. Lu
alors, je vais
uniquement
dire,
de manière négative.
Non, je vais
tu l'as lu à charge.
Je peux parler de l'amant.
Très très curieux.
Je peux parler de l'amant.
En plus, avec un regard vaguement misogyne.
Est-ce
si
que je peux parler de l'amant ? Est-ce que j'ai le droit de parler de l'amant ? Alors,
courte.
L'amant,
courte.
Elle l'aime pour ce qu'il vient lui faire au lit. En revanche,
c'est
le principe.
En revanche, elle dit, c'est un crétin. C'est un type totalement ignorant. Mais elle n'arrête pas de l'écrire.
Non, elle dit qu'il est américain.
Non. Elle cite plein de passages où le mec ne connaît rien à la littérature, ne s'intéresse à rien d'autre.
Oui, mais justement, elle explique
attends,
que c'est pas
part,
grave.
Il y a une part.
On peut pas avoir le beurre à l'argent du beurre.
Il y a une part d'égoïsme dans cet hédonisme qui est terrible. C'est-à-dire que quand cet amant, sa femme aux États-Unis a un cancer fulgurant, elle doit aller à l'hôpital. Elle dit, j'en ai rien à faire, je veux qu'il vienne. Il vient que deux fois par an.
Non, elle dit pas ça.
Et quand il est atteint par l'âge Et Colly, il n'a plus les performances qu'elle attendait de lui, elle le rejette. Et ça l'intéresse plus. Le type ne l'intéresse plus. Non, mais le type ne l'intéresse plus. Excusez-moi.
Franchement, mais... moi, c'est vrai que j'ai aimé ce journal, mais je trouve que c'est très partial comme lecture.
Ah, vraiment?
Rigolez, je crois. Mais le livre, ça tout le temps. Et par moments, j'avais l'impression de lire des proches. Malgré elle. Tu sais, du côté des proches, dans le genre, mercredi avec mon beau-frère, j'ai mangé des moules. Ben, dans le livre, il y a ça sans arrêt. Alors, on a tous les repas, tous les déjeuners, tout ce qu'elle mange, tout ce qu'elle pêche et tout ça. Il y a deux choses. À un moment, elle dit, je me suis lavé les cheveux hier. C'est vachement content de l'apprendre. Hein.
C'est un journal!
Et alors, carnet de pêche, je veux bien, ça, c'est sûr. Carnet d'amour, c'est autre chose. Et puis, dernière petite chose, si vous me permettez. Il y a un détail qui m'a vraiment intrigué. Page 200, on est le 17 août 1986. Elle cite un passage d'un livre. Qui est paru en 2002.
Oui, si quelqu'un peut m'expliquer. J'ai remarqué aussi.
Si quelqu'un peut m'expliquer, là, c'est un vrai mystère. Ah, je suis content que ça vous laisse quoi, là?
Non, moi, j'ai remarqué aussi, pense que c'est parce que Blandine de Cône, la fille de Benoît...
la fille de Georges de Cône, et de Benoît de
Groot, Georges de Cône, qu'est-ce qu'il prend?
C'était le premier mari de...
À l'édition de ces journaux.
Bon, enfin,
elle a fait un coupé-collé, parfois, de plusieurs moutures. Je pense que c'est pour ça qu'il y a cette incohérence, qui ne remet en rien la vigueur et la
non, mais c'était une note en bas de page, comme Poinquino, si tu veux.
De Courte et de Benoît. Parce que, si je puis me permettre... Effectivement, elle est rosse, Benoît Groult, mais d'abord, on le découvre pas ici, on le savait bien avant. Mais elle est surtout rosse avec elle-même, parce que ce que tu dis sur la vieillesse, ce livre est d'abord le combat d'une femme contre sa propre vieillesse. Et elle a des mots terribles. Elle dit « Avant, j'étais laide, mais j'étais laide et j'étais jeune. Maintenant, je suis laide et je suis vieille. » Et elle passe son temps, justement, à essayer de se battre contre ça. Elle explique avec une sorte de sincérité inouïe pourquoi elle fait des liftings, pourquoi elle essaye toujours de rester présentable. Elle parle du corps, mais je trouve que la rosserie dont tu parles est d'abord tournée contre elle. Il y a des scènes où elle est devant son miroir, elle dit « Je suis laide, je suis laide, je suis laide. » Après, c'est une lutte pour la liberté et pour sa liberté. Elle avait quand même instauré un système inouï. C'est qu'elle passait la moitié de ses vacances avec Paul Guimard, son mari, qui effectivement, excuse-moi, mais oui, était...
Il faut dire que Paul Guimard savait tout de ce qui se passait avec Courte.
Voilà, et Courte aussi. Donc, jusqu'au 15 août, elle était avec Paul Guimard. Et puis le 15 août, Paul Guimard devait prendre l'avion.
Pour aller à l'Élysée.
Pour aller à l'Élysée où il travaillait. Et le 16 août, parfois même le 15 août, il y avait un petit moment où ils étaient ensemble. Courte arrivait.
C'est une très bonne organisation.
C'est une bonne organisation. Moi, je trouve qu'effectivement, elle a en plus le mérite d'être claire. Tout le monde était au courant. Et les deux hommes étaient d'ailleurs très jaloux l'un de l'autre. Mais ce qui est fou... c'est que on peut penser que cette liberté la rendrait très heureuse et encore plus libre. Mais non, parce que très souvent, elle se retrouve deux fois la bonne à tout faire de ces deux hommes. C'est ça qui est dingue. Et c'est ça dont elle essaye de se défaire. Et ce qui me semble frappant dans ce livre, c'est de voir à quel point, évidemment, la condition féminine a évolué, mais à quel point les hommes ont changé. Parce que là, c'est quand même des hommes qui attendent que Benoît de Groult fasse tout, qu'elle fasse le ménage, qu'elle leur serve le whisky le soir, parce que Paul Guimard, il boit énormément. Je vois que tu es tout à fait d'accord avec cette vision de la vie. Mais elle ne l'est pas, et elle lutte en permanence. Et puis après, il y a ces scènes de pêche. Alors, il y en a un peu trop, quand même. Mais
toi qui adores la mer.
J'adore la mer, mais bon, je suis pas une grande pêcheuse.
Non, tu vas au restaurant au bord de la
plage. Je vais au restaurant manger directement le bouquet et les crevettes. Voilà. Mais elle a une énergie
incroyable. Ah oui, qui est
impressionnante.
Ah oui.
Impressionnante, parce que quand elle arrive en Irlande, elle a déjà 57 ans.
Et puis en plus, vivre en Irlande, c'est pas facile. Hein,
ça donne pas franchement
entre
envie.
Entre les feux de tourbe et les... c'est pas évident. Hein.
Elle dit qu'il faut être soit fou, soit amoureux, soit irlandais pour supporter le climat de ce pays. Moi, je trouve que c'est une personnalité absolument géniale.
Bah, géniale parce que honnête. Enfin, moi, j'ai rarement lu un journal où la personne a l'air totalement autant honnête et dit tout. Et dit tout de la personne, des personnes qu'elle aime aussi. C'est-à-dire que quand on vit avec quelqu'un ou quand on aime quelqu'un, on n'est pas ou quand on a un amant ou une maîtresse, on n'est pas forcément à tout trouver génial. Enfin, il y a toujours des côtés qui ne nous vont pas. Et là, elle dit absolument tout, de façon souvent assez drôle, plus que méchante d'ailleurs,
oui,
ou de façon extrêmement sincère et lucide. Mais oui. Et je suis très étonnée que tu aies été comme ça, Jean-Claude, complètement rebutée par le fait qu'elle... Elle ose dire que son mari vieillit, que ça lui plaise moins, mais je suis d'accord avec Olivia.
Je
suis d'accord avec Olivia.
Mais c'est pas ça.
Elle s'en prend beaucoup à elle aussi, et à son vieillissement, et au vieillissement de Courte, et voilà. Mais attends, là, c'est mon temps de parole, pardon. Ce que j'aime aussi, c'est cette plongée dans un couple d'intellectuels, Paul Guimard et elle, où, enfin, ce qu'on n'a pas dit là, c'est qu'il l'a quand même trompé pendant des années. Oui. Enfin, est-ce qu'on appelle ça trompé ou pas? Est-ce que c'était un accord ou pas?
Il y avait une forme de vengeance.
Il partait faire ses émissions. Voilà, il avait tout le temps une femme avec lui qui l'accompagnait en week-end. Elle a avalé quand même beaucoup de couleuvres. Mmh. Et là, voilà, c'est acquis que c'est normal qu'elle ait à son tour du plaisir, un amoureux, etc. Ce qui est très touchant.
Et on a l'impression qu'elle n'a plus de rapport avec Paul Guimard. Du discours féministe qui était le sien dans ses livres, qui ont encore une fois beaucoup porté. Hein. Elle a été très, très en avance.
Elle a été très en avance avec sa sœur Flora aussi. Oui. Je trouve absolument génial aussi qu'elle parle de sexe totalement ouvertement, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Et que le sexe à 60 ans, à 70 ans, c'est très important. Ça, je trouve ça quand même assez fort de le dire. Ensuite, j'aime toujours dans cette plongée, dans ce couple d'intellectuels qui a vécu la révolution sexuelle, etc., la libération des mains. Ce qui est touchant, c'est que aucun des deux n'ose s'avouer qu'il est jaloux. C'est-à-dire, Paul Guimard tourne autour
Paul
d'elle.
Paul Guimard le dit quand même. Hein.
Oui, mais non. Pendant tout, quasiment des années, enfin, il ne veut pas l'avouer, parce qu'elle dit à un moment donné, ce serait vulgaire d'être jaloux. Non, j'ai été complètement, complètement sous le charme, et je trouve que sa fille, Blandine de Cône, a bien fait de le sortir,
Arnaud.
Ce journal.
Je l'ai beaucoup aimé, mais je crois que c'est sans doute parce que je ne l'ai pas lu.
Tu l'as pas lu du tout ?
Non, pas du tout.
Mais j'ai pas envie pas...
Non, j'ai lu un livre que je croyais au programme, du coup, sur la première femme de Romain Gary.
Ah non,
voilà.
J'ai pas prévu.
C'était pas très intéressant, d'ailleurs. Mais,
c'est pas très bon, c'est pas très bon.
Je le disais tout à l'heure en souriant, mais je te le conseille, ne serait-ce que pour cette succession de politiques de la Mitterrandie qui viennent défiler... Ouais. En Irlande, c'est assez... Pourquoi tu me regardes comme ça avec cette terre ?
Parce que, par rapport à ce que tu dis, il n'y en a que deux qui échappent à sa rosserie, comme tu dis. Enfin, c'est méchanceté, ce qu'on veut. Tout le monde y passe. C'est Mitterrand et les Badinter, dont on apprend, et ça, c'est un des acquis de ce que Robert appelle Elisabeth Zézette. Voilà. Donc on apprend... Et chez les Guimard, ils sont tout émerveillés que Robert appelle Zézette.
Elle dit des choses sur sa sœur magnifique. Sur Flora aussi. Notamment à la fin, à l'avant. Et elle parle de ses enfants très bien. Elle parle de la maternité aussi.
Non.
De manière extrêmement politiquement incorrecte.
Mais non.
Mais si.
Mais non.
Journal d'Irlande, carnet de pêche et d'amour, 77-2003. C'est Benoît de Groult, c'est chez Grasset. Et c'est le livre que va lire bientôt Arnaud Vivian. Est-ce que tu l'as lu, Arnaud, la disparition de Stéphanie Meller aux éditions de Fallois, le nouveau roman, nouveau best-seller de Joël Dicker, 33 ans, l'auteur genevois de la vérité sur l'affaire Harry Kéber, 3 millions d'exemplaires vendus, ça fait rêver, et surtout bientôt porté à l'écran par Jean-Jacques Annaud, c'est quand même ce qu'on appelle la double peine. C'est donc un roman assez long, je ne vais pas dire comme Un jour sans pain, mais presque, c'est 640 pages. Ça se déroule comme les précédents aux États-Unis, plus précisément à Orfea, petite station balnéaire chic et imaginaire proche de New York, où un quadruple meurtre, dont celui du maire de la ville, a été commis en 1974. Là, on est quasiment dans les mêmes années que Benoît de Groult. 20 ans plus tard, la Stéphanie Meller du titre, qui est une journaliste locale et qui était sur la piste du coupable, disparaît dès le début du roman. On ne va pas dire où elle est passée. Et les crimes reprennent de plus belle. Il y a un policier, Jesse Rosenberg, qui enquête alors sur cette disparition. Pour le reste, le style n'a pas changé. Il n'y en a toujours pas, sauf si on considère les expressions toutes faites. J'en ai noté 2-3. L'étau se resserrait. Il y a plein d'endroits où l'étau se resserre, où la tension est palpable aussi. La tension est palpable, je me répète. Et surtout, le sang ne fait qu'un tour. Ça, je l'ai vu au moins une dizaine de fois. Il y en a une plus bizarre que j'ai notée, c'est « Elle avait la soixantaine avec qui j'avais en commun que nous étions divorcés ». Alors ça, j'ai pas compris.
C'est vrai. Oui, moi aussi, je l'avais remarqué. Celle-là.
Elle avait la soixantaine avec qui j'avais en commun que nous étions divorcés toutes les deux.
Ouais, je pense qu'il manque un mot.
Bref, on trouvera dans ce polar aussi, d'ailleurs, ça, c'est en revanche un moment, peut-être le seul moment qui m'a amusé, des piques contre la critique. La critique littéraire, bien sûr, pour qui tout ce qui n'a pas de succès est forcément très bon. Je rappelle la formule, tout ce qui n'a pas de succès est forcément très bon. Vous inversez et vous avez... alors oui, ça, tu l'as lu, Arnaud ?
Oui.
Les 640 pages ?
C'est de la merde. On peut le dire, là. C'est intéressant de voir quand même que Joël Dicker a reçu pour son premier livre le prix de l'Académie française. Ça dit assez l'entre-gens qu'avait
Bernard
ce pauvre Bernard de Fallois. Quel génie, hein, parce que là, il fallait quand même le faire, imposer aux académiciens l'espèce de... Comment on pourrait dire, de pidgin, là. C'est écrit dans une... Enfin, tout est faux dans ce livre. L'écriture est fausse parce que c'est écrit dans un faux américain qui fait que effectivement des fois ça passe mal en français. Hein. Ça se passe dans une fausse Amérique.
Oui, on croit que c'est mal traduit en fait.
Oui, une Amérique qui n'existe pas, qui n'est jamais décrite d'ailleurs, qui n'est pas là, qui n'est pas présente. Il y a des scènes à New York, mais il n'y a jamais une seule description. Il n'y a que des gens qui parlent. Une intrigue qui cherche à avancer. Donc des blagues, évidemment, sur la critique littéraire qui vont plus loin que ça. Hein. C'est que un critique fameux qui, évidemment, ne lit pas les livres avant de les critiquer. À quoi ça sert ?
Ce qui nous est jamais arrivé ici.
Jamais arrivé. Qui préfère les livres ? Alors, il a un ordre de grandeur. Alors, c'est intéressant comment Joël Dicker l'écrit. Pour ce critique, en tête de gondole. C'est l'expression qu'utilise donc Joël Dicker. C'est magnifique. En tête de gondole, il y a donc les livres incompréhensibles, évidemment. Ensuite, les romans intellectuels. Et puis, les romans historiques. Et puis, les romans tout court. J'adore le concept du roman tout court. Et ensuite, en avant-dernier, les romans policiers, puisque donc, il cherche à en écrire un. Je dis bien... Il cherche parce que quand on essaye de comprendre, là on ne peut pas divulgâcher ou spoiler parce que de toute façon on n'y comprend rien. À la fin, vous avez lu 600 pages, ne cherchez même pas à savoir qui a tué, vous ne le saurez pas. Mais à
on le sait, mais on s'en fout. C'est
On ne comprend rien. Et non seulement on ne comprend rien, mais il y a, comme il faut bien faire ces 600 pages, donc il introduit des micro-histoires qui sont, pour certaines, peu ragoûtantes. Il y en a une, par exemple, où le héros, donc, qui s'appelle Jesse Rosenberg, qui raconte comment il a été élevé par ses grands-parents, qui sont des juifs qui ont échappé au ghetto d'Odessa. Et ce sont des grands-parents horribles, qui maltraitent tout le monde, et puis qui le maltraitent lui, parce qu'il revient de l'école, il pleure, le grand-père lui dit « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? On m'a traité de fillette. » Et le grand-père dit « Oui, c'est vrai, tu es une fillette. » Et ils lui mettent une perruque sur la tête. Ça dure une dizaine de pages. Ils le traitent comme un esclave, mais vraiment comme un esclave, les grands-parents. Et puis, ça va tellement loin que les flics arrivent. Et là, écrit Joël Dicker, la grand-mère, parce qu'elle a peur des uniformes depuis Odessa, soudainement se met à respecter son petit-fils. Et elle lui demande d'emmener des gâteaux chez ce flic en disant « c'est notre Raoul Wallenberg ». Et vous savez qui est Raoul Wallenberg, ce célèbre diplomate suédois qui a sauvé 20 000 juifs. Eh bien, quand vous lisez ces 10 pages à l'intérieur du roman, c'est pour dire que Joël Dicker, oui, nous lisons les livres. Quand on lit ces 10 pages, on ne sait pas du tout quoi en penser, mais il en ressort quelque chose de très, très sale.
Exercice difficile, il faut aller vite si on veut évoquer le Maupin pour finir, Jean-Claude.
Moi, je serais d'accord avec plein de choses, parce que je pense que ça ne va pas être fini. Et en même temps, non pas vous me le faites aimer, mais moi, je suis face à un mystère, c'est que je n'arrive pas à comprendre, non pas ce que vous ne comprenez pas, c'est moi, j'ai lu les 600 pages, non pas d'une traite, mais les pages se tournaient toutes seules.
C'était le vent, ça.
Non, mais je veux dire, j'éprouvais pas un plaisir littéraire particulier. La seule chose qui me surprenait moi-même, c'est que je trouvais que la mécanique marchait. Avec de briques et de brocs,
c'est-à-dire c'est avec les pieds, tu es d'accord?
Mais oui, je l'ai dit en préambule.
Tu craches sur Benoît Groult, son journal d'Irlande.
Je suis d'accord avec vous, d'où le mystère. Pourquoi on arrive au bout des 640 pages sans voilà, ça ressemble à de briques et de brocs, une sorte de mécano mal foutu chez un brocanteur, tu sais, le type fait un peu n'importe quoi, tu pars avec, si ça va aux mines, tu vas pas s'en mettre sur la route. Et pourtant, je suis désolé, donc je sais que je vois déjà vos regards, mais je suis obligé.
C'est vrai qu'on regarde de travers.
J'aurais pu suivre votre voie en disant ben ouais, c'est quand même pas possible. Ben je les ai lus, voilà comme ça. Et je dois dire que moi j'aime beaucoup le personnage d'Ostrovski, qui est donc ce critique littéraire, et je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il nous ressemble.
Nelly, quelques mots.
Alors moi j'ai pas été jusqu'au moment où il y a un critique littéraire, parce que j'en pouvais plus, mais vraiment j'en pouvais plus, alors que pourtant j'adore les polars, et même les moins bien écrits. Mais alors là, j'en pouvais plus.
Non, plus, hein.
Non mais enfin, pour ce que j'ai commencé à lire, c'est un polar. au moment où je le lisais, après c'est peut-être devenu guerre et paix, je sais pas. Non, c'est juste, comme disait encore cet auditeur qui vraiment a eu un mot génial dans son courrier, c'est un roman en plastoc. Moi, j'ai pas pu continuer, contrairement à Jean-Claude, parce que assez vite, je me suis dit, c'est un enfant qui pose, un enfant arrogant qui pose à l'écrivain de romans policiers, et qui, au fond, comme disait Arnaud, on reconnaît pas les États-Unis, on reconnaît les séries américaines. Et on a l'impression qu'il reste dans sa chambre, qu'il est enfermé depuis 30 ans, qu'il n'en est pas sorti. Oui. Par contre, il a vu énormément de choses et il copie. Il fait une espèce de melting pot de absolument, plusieurs séries, plusieurs romans. Une femme disparaît, ça, toutes les séries quasiment commencent comme ça. Voilà, et puis cette alternance de personnages, de voix. C'est clicheton à mort.
Olivia ?
J'ai adoré. Non, c'est pas vrai.
Ah, j'ai eu peur.
On a le cœur fragile. Alors moi, je dois dire que j'ai trouvé ça d'abord très comique, tellement c'était idiot. C'est-à-dire que il invente un flic idiot, parce que les 50 premières pages, c'est devant lui, le corps était criblé de balles. La phrase d'après, c'est « Bon sang, j'en déduis qu'il était mort. » Ah, voilà. Un paragraphe plus loin, il y a un appartement cambriolé. Alors, il dit « La porte n'avait pas été forcée. J'en déduis que le cambrioleur avait un double des clés. » Non, mais tout est comme ça.
Il y a un autre moment, c'est « Il est mort, point assassiné, point. »
Oui. Il y a aussi un moment où la fliquesse, il y a deux personnages qui portent le même nom de famille, et elle dit « Je n'avais pas fait le rapport. » Ils sont frères et sœurs.
Oui, c'est ça. Voilà. Non, mais je vous jure, c'est...
On se dit, avec des enquêteurs comme ça, effectivement, le livre peut durer 600 pages.
À ce point-là, on se demande parfois, moi je me disais, il est payé à la ligne. Tout ça écrit à grand renfort de « s'exclama ». Alors, ils s'exclament et s'écrièrent. C'est souvent d'ailleurs, comme ces deux gars qui travaillent ensemble, c'est « nous nous écriâmes ». Et je me disais que dans la vie, c'est un verbe qui n'existe pas. Personne ne s'écrit dans la vie.
Non mais la tension est palpable. Hein.
C'est juste un verbe pour les mauvais romans.
Bon.
Donc il s'écrit énormément. Honnêtement, moi, j'ai pas été jusqu'au bout. C'est assez rare, un polar dont, dès la deuxième page, tu n'en as rien à faire de la résolution de l'énigme.
Mais pas Jean-Claude, notre ami Jean-Claude.
C'est presque un cas d'école.
Oui.
Non.
Tu vas mal dormir, Jean-Claude. Hein. La disparition de Stéphanie Meller, c'est chez Fallois et c'est Joël Dicker. Et on termine rapidement. J'avais inscrit les chroniques de San Francisco, troisième volume, évidemment, de ces chroniques d'Armistead Maupin, aux éditions L'Olivier. Et puis, la publication de Mon autre famille, toujours à L'Olivier, du même Maupin. Et cette autre famille, c'est celle des homosexuels qu'il a épousé, si j'ose dire, à San Francisco au début des années 70, après avoir divorcé de sa famille biologique, ultra conservatrice de Caroline du Nord, dont il avait adopté au début les valeurs, et il s'était même engagé dans la marine et avait servi au Vietnam. Bref, c'est cette autobiographie en même temps que les chroniques qui paraissent, et à la fin de Mon autre famille, il publie une lettre qu'il avait adressée à sa mère en 77, où il lui dit « Être gay m'a appris la tolérance, la compassion, l'humilité, m'a fait entrer maman dans la grande famille humaine. » Vous le conseillez, ce livre, surtout l'autobiographie?
Oui, ou surtout l'autobiographie, oui, même si moi j'ai toujours un problème avec le style de Maupin, c'est-à-dire, ou Maupin, je sais pas. C'est toujours, je trouve ça ronronne toujours un peu, c'est un peu... c'est-à-dire, il traverse la guerre du Vietnam, ça continue à ronronner.
Ah, il le traverse, il faut le dire, dans le livre, avec plein de photos, parce qu'on a...
Il y a plein de photos.
Maupin a toutes les époques de sa vie.
Il grandit chez les racismes, pareil, toujours le côté un peu bonbon, tonton, Maupin, qui voit pas trop les problèmes, qui les voit après. Mais moi, j'ai beaucoup aimé la période San Francisco.
Jean-Claude ?
Alors moi, je préfère les chroniques de San Francisco, vraiment de très loin. Vraiment, j'aime beaucoup ça.
Mais t'es jamais d'accord avec nous ce soir, en fait. Hein.
Bah, c'est pas un peu le but de l'émission ?
Absolument.
Ou alors je me suis trompé.
Non, continue.
Et, je préfère vraiment le côté marrant, inventif. Je trouve qu'il y a un vrai monde dans les chroniques de San Francisco et j'aime beaucoup... Et tu as raison, c'est ton temps, mon père raconte, quoi. Bon, ce qui est intéressant, c'est le passage, quand même, le passage qu'il a fait, et qui lui a fallu 30 ans pour l'admettre, le reconnaître, le décrire. Enfin bon, ça, c'est bien, quoi. Le passage d'où il vient et ce qu'il est devenu, ça, c'est assez formidable. Oui.
Olivia?
Mon autre famille, c'est quand même très ennuyeux, il faut dire un peu les choses. C'est-à-dire que ce qu'il raconte est très intéressant, comment effectivement on peut devenir cet homme-là avec ce père qui lui disait si tu es en grosse une petite négresse, c'est pas grave, on la fera avorter à Porto Rico, parce que c'était quand même ça le père.
Ah oui, oui.
On a du mal à comprendre comment l'enfant ne déteste pas son père. Bon, la lettre à la mère est très belle, mais enfin, c'est quand même très, très ennuyeux et bourré de références culturelles américaines qui, en tous les cas, moi, me dépassaient. Donc, je me suis énormément ennuyée.
Qui sont plus sincères que celles de Dicker. Rapidement, Arnaud.
Je n'aimais pas du tout les chroniques de San Francisco et j'ai compris pourquoi en lisant cette autobiographie de Maupin, que je trouve, détestable, en fait.
Bon.
Non, c'est un conservateur, contrairement à...
C'est
il traverse la guerre du Vietnam, on dirait, une espèce de promenade de santé.
Oui, c'est ça.
La manière dont
il
raconte ça est effrayante. Et puis surtout, il y a cette idée que son identité se résume à son homosexualité. Dès qu'il est enfant, il raconte détails très révélateurs. J'adorais chiner dès mon âge très tendre. Mais on dit, mais c'est quoi? Pourquoi c'est un détail révélateur? Est-ce qu'il y a un déterminisme là? Ou quand il est GI, il est au Vietnam, il envoie une lettre à ses parents et il raconte détail révélateur très gai. Je dis que je suis bronzé, mais on est là, on dit,
on va garder quelques minutes.
Ce type est un
pour des livres qu'on a aimés,
quoi,
on va essayer. Et donc, c'est Mon autre famille ainsi que Chronique de San Francisco. C'est Amestin Maupin et c'est aux éditions de L'Olivier. Allez, un conseil pour terminer rapidement, Olivia.
Donne-moi la main pour traverser de Marion Ruggieri chez Grasset. Marion Ruggieri, elle était amie avec Emmanuel Bernheim. Et un samedi soir, elle est chez elle devant la télévision et elle reçoit un texto d'Emmanuel Bernheim qui lui dit « Je suis malade, je n'en ai plus, genre, que pour quelques jours ». Et le lendemain, c'est un 1er mai, c'était juste il y a un peu plus d'un an, Marion Ruggieri traverse tout Paris pour aller lui rendre une dernière visite. Et là, les rôles s'inversent. C'est Emmanuel Bernheim qui va réconforter Marion et qui va lui parler de la mort d'une manière tout à fait inouïe. Je trouve que c'est un livre très délicat, très renversant et très,
Marion,
très beau sur l'amitié.
Marion Ruggieri chez Grasset, le conseil d'Arnaud.
Propos de table de Raoul Van Eghem, c'est au Cherche Midi. Raoul Van Eghem, c'est...
Légende du situationnisme.
Légende du situationnisme qui a écrit Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations en 1967, qui est un des grands livres de la pensée 68. Et donc, il revient avec ses propos de table qui sont des propos philosophiques classés par ordre, un peu comme les pensées de Pascal, ou d'ailleurs comme la société du spectacle de Guy Debord. Ça s'appelle, le sous-titre, c'est Dialogue entre le corps et la vie. Et c'est vraiment la pensée... disons, c'est plus la situation maintenant, c'est la pensée du moment, quelque chose qui raconte très très bien et comment, puisqu'il a 84 ans aujourd'hui aussi, comment rester vivant dans ce monde mécanisé et détestable.
Van Eghem, c'est au Cherche Midi. Mon conseil modeste mais riche est Le pommier d'Anaïs de Nicole Lombard, qui est un peu la Benoît de Groult de l'Aubrac, je dis ça pour Jean-Claude. C'est aux petites éditions Le Bon Albert et Nicole Lombard, qui habite Nasbinal, fait l'éloge de son pays, austère et rigoureux, comme aurait dit Vialat. Elle met de la terre à taupe dans ses massifs de pivoine, très important l'usage de la terre à taupe. Elle rend visite chaque jour aux vaches, aux chevaux et surtout à ses auteurs de prédilection, Giono, Jacotet, Vialat évidemment, ou Grac, qui disait de l'Aubrac, il faut si peu pour vivre ici. Et elle a le talent, en tout cas, de le raconter, Nelly.
Moi, ce sera moins humble, puisque c'est Simone de Beauvoir en Pléiade.
Ah, bien sûr.
Car en lisant Benoît de Groult...
On va dans un prochain masque.
Ah oui, il faudrait, parce que c'est...
Non, mais c'est critique.
C'est merveilleux, parce que... Alors, déjà, je trouve qu'elle rentre tard en Pléiade, je ne sais pas
incroyable.
Pourquoi. Je trouve ça très tard.
Il y a même un album Beauvoir.
Il y a un album Beauvoir fait par sa fille adoptive, Sylvie Lebon de Beauvoir, qui est absolument magnifique, cet album. Puis ses textes, quoi. Je crois qu'il y a environ... Il y a six, je crois que c'est bien six, ces textes, ces mémoires, en fait, ces volumes, qui vont de Mémoire d'une jeune fille rangée à la cérémonie des adieux. Et là, quand on parlait de Benoît de Groult, l'histoire d'une femme qui s'affranchit, justement, d'un... Enfin, c'était les féministes de l'époque.
Je compte sur toi, Nelly, sur Olivia, pour parler, avant de l'été, des Pléiades Beauvoir. Et on termine avec Jean-Claude.
Comme on est en plein Festival de Cannes, le dimanche 13 mai, Platine, de Régine de Tambay, c'est un très, très beau roman sur Jean Harlow, qui est morte à 26 ans, qui était... le sex symbole d'Hollywood, qui a été une femme battue, qui a été une femme exploitée. Et il y a surtout un travail littéraire qui est tout à fait surprenant, étonnant, singulier. Moi, j'ai assez peu lu de livres de cinéma aussi étonnamment écrits. Voilà, donc c'est Jean Harlow. C'est quelqu'un qui avait un corps de rêve et qui souffrait de ne pas avoir d'enfant et qui était prête à toutes les humiliations pour ça et qui est morte à 26 ans d'un mal diagnostiqué. Et c'est un très, très beau livre.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, France Inter. www.radiocristal.fr. Merci beaucoup Nelly Capriélion, Olivia de Lamberterie, Arnaud Vivian et Jean-Claude Raspienjas pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir au Charles Trenet à la technique, et je les remercie Stéphane Desmonts, Philippe Thibault, Éric Villenfin. La réalisation était de Didier Lagarde. Et notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, il aura lieu le jeudi 24 mai au même studio Charles Trenet de la Maison de la Radio pour deux émissions, l'une consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on commentera en direct le palmarès du Festival de Cannes à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.